Bonjour et bienvenue dans notre magazine hebdomadaire Parcours. André Bourguet au micro. Encore une fois, un passage par la librairie Jean Calvin d'Alès sur le voyage des protestants. Aujourd'hui, un voyage plein d'aventures et néanmoins très édifiant. Élie Nau, natif des environs de La Rochelle, après la révocation de l'édit de Nantes, s'en va vers les Amériques. L'historien Didier Poton raconte, Didier Poton que nous présente Franck Belloir, directeur de la librairie.
L'histoire d'Élie Nau est tout à fait surprenante. Le parcours de cet homme, son parcours personnel, est tout à fait fascinant, tout à fait extraordinaire, et je le compare souvent, lorsque j'en parle, à une épopée. Alors je remercie en tout cas le professeur Didier Poton d'avoir accepté notre invitation ce soir. Didier Poton est professeur des universités à La Rochelle, il a été doyen de cette même faculté. Il a commencé son travail de chercheur ici, donc il n'est pas dépaysé, hein, puisqu'il a travaillé, il a fait un travail remarquable sur la communauté protestante de Saint-Jean-du-Gard, à l'époque moderne. Ensuite, il a continué ses travaux et puis il a intégré l'université de La Rochelle et depuis il est l'auteur de nombreuses publications, que ce soit des publications techniques ou des ouvrages d'histoire générale, notamment il est l'auteur d'un manuel avec Patrick Cabanel aux éditions Nathan. Chez Nathan, l'histoire des protestants dans la France moderne. Voilà.
Bien, merci de cette invitation.
Parce que cela me fait retrouver les Cévennes, thèse à Montpellier dans les années 80.
Je reviens de temps en temps, mais comme je dis toujours, pour le petit Parisien d'une famille catholique d'origine nantaise ayant été formé chez les oratoriens de Massillon à Paris, quand je suis arrivé dans les années 82-83 en Cévennes, c'est un souvenir important et notamment c'est là que j'ai fait des liens professionnels et en même temps des amitiés, et je pense que notamment avec Patrick Cabanel j'ai toujours gardé ce lien avec les Cévennes. Alors Élie Nau, Élie de prénom, Nau de nom, il est né à Moez, au sud de La Rochelle, en 1662. Il est mort en 1722 à New York à l'âge de 60 ans. Si on déroule sa vie, on s'aperçoit que 1679, embarquement de La Rochelle pour les Antilles, un mariage à Boston en 1685, une vie de capitaine de navire en 1691 à partir de New York. En 92, pris par un corsaire français de Saint-Malo, au large de la Jamaïque. Il se retrouve à Saint-Malo. 1693, condamnation en galère. Et comme ça ne suffit pas, compte tenu de son opiniâtreté, il se retrouve au château d'If, d'où le titre de l'ouvrage. 4 ans d'incarcération. Une libération exceptionnelle. Très peu de galériens ont été libéré sur demande soit de l'Angleterre, soit des Pays-Bas. Un retour à New York dès 1698 où il retrouve sa famille. Et en 1704, il quitte l'église huguenote pour l'anglicanisme. Il fonde à New York une école, ce qu'il appelle son école africaine. C'est-à-dire qu'Élie Nau a fondé l'école qui était à destination des enfants, des esclaves. Il y a eu dans son école essentiellement des esclaves d'origine africaine, mais il y a aussi des jeunes Amérindiens. Donc quelque chose d'un parcours un peu exceptionnel. Et son école a duré près d'une vingtaine d'années, cessera en 1722 avec sa mort. Mais faut imaginer ce parcours. Et c'est pour ça que, en passant comme ça la série de dates, l'épopée, déjà, on l'aperçoit très très bien. Alors, Élie Nau, qui est-ce ? Élie Nau, c'est d'abord un marin charentais. C'est d'abord un marin de Saint-Onge, c'est-à-dire ce pays au sud de La Rochelle, qui a la particularité d'être un pays protestant, un pays où le protestantisme s'est implanté très tôt, dès les années 1540-1550, Et Moëze, c'est le village de la paroisse de Soubise. Soubise, c'est une ville, petite ville, puisqu'elle est clos de murs, et elle contrôle l'estuaire de la Charente. Et à l'époque, Soubise, c'est important parce que Rochefort n'existe pas, l'arsenal de Rochefort, quelques années plus tard. Mais Soubise tient, verrouille l'estuaire. C'est un pays protestant aussi dans tout le sud. Ce sont les marais salants de Brouage. Il y a toutes les communautés de la Seudre à la sortie de l'estuaire de la Gironde. On est dans ce qu'on appelle le pays des îles, la Saintonge maritime, avec des paroisses et des communes après la Révolution française et où jusqu'à dans le milieu du XXe siècle, on a quasiment une majorité de protestants. C'est important à savoir. Ça veut dire tout simplement que le petit Elino, je l'aborderai après, rapidement, il a eu une éducation protestante. Dans une famille, l'Eno, qui est une famille importante, on retrouve l'Eno à la Tremblade, à Marennes, dans toute la Saintonge maritime. Et ce pays protestant, c'est un pays aussi qui a une autre dimension. C'est celui qui va donner beaucoup de fugitifs, beaucoup de réfugiés au XVIIe siècle. Vraisemblablement, dans les années 1670-1690, un protestant sur trois est parti. Et cette terre de fugitifs, elle a alimenté un courant de départ. Le dernier départ, c'est le pasteur Gibert, en 1762, à la fin de la guerre de 7 ans, qui part de Bordeaux avec une centaine de protestants à une époque où il y a une tolérance de fait, mais on s'attend à ce qu'après la guerre de 7 ans, le roi de France avait besoin des navires, des négociants Rochelais pour protéger le Canada et les Antilles. Donc on tolère que les négociants protestants et les protestants aient un culte privé, mais on s'est dit qu'en 1762, quand il y aura la paix, cela changera comme la dernière fois, c'est-à-dire que la répression reprendra. Et le pasteur Gibert part sur Charleston, et Charleston qui est le deuxième lieu important où les protestants se réfugient dans les colonies anglaises. Donc une terre de fugitifs. Et si c'était une terre de fugitifs, c'est tout simplement parce que c'est un pays qui est ouvert sur la mer, on part facilement. Alors quand, sur le plan économique, ce marin saintongeais, il participe d'une économie maritime qui est contrôlée effectivement par une bonne partie des protestants. Et cette économie maritime, elle a en fait trois sites bien particuliers où on se répartit le travail. La Rochelle, la cité huguenote, là où les négociants sont importants, là où on a le capital pour toutes les opérations maritimes au XVIe siècle. On trouve des navires rochelais au Brésil quasiment en même temps que Cabral découvre le Brésil. Donc des navires qui vont à Terre-Neuve dès le début du XVIe siècle. Donc à La Rochelle, on a le négoce et on a le capital permettant d'investir. Mais comme j'explique souvent à mes amis rochelais, La Rochelle a une caractéristique, s'imagine un port, mais elle n'a pas de marin. Donc les marins, où sont-ils? Eh bien, ils sont à Moëze et à Soubise. C'est le vivier de marins, de même la Marraine et la Tremblade, c'est un vivier de marins. Autrement dit, pour leurs entreprises maritimes, le capitalisme maritime rochelais a besoin des marins de la Tremblade, des capitaines de Moëze, etc. Donc le jeune Elino, il naît dans ce milieu-là. Et quand on n'est pas marin dans ces familles protestantes, eh bien on travaille le marais salant, on travaille le sel de Brouage. Et les bateaux qui permettent d'exporter le sel ne sont pas tous protestants, mais ils sont en partie protestants. Mais ils sont en partie protestants seulement parce que s'il y a des navires qui jouent un rôle important dans l'exportation du sel, c'est essentiellement les bateaux portugais, les bateaux espagnols. Mais aussi, il faut savoir que tout le littoral atlantique à la fin du XVIe et XVIIe est contrôlé par une flotte extrêmement importante. C'est la flotte bretonne, le cabotage breton. Les Bretons tiennent tout le cabotage sur le littoral atlantique. Il y a à Bordeaux, un collègue a calculé que les trois quarts des navires qui emportaient le vin de Bordeaux étaient des navires bretons, n'étaient pas des navires bordelais. Et ces navires bretons vont vendre le vin en Angleterre, aux Pays-Bas, et là sont relayés par des marchands anglais, des marchands néerlandais, etc. Donc dans les années, en 1662... Quand Elino naît, quelle est la situation ? La situation est difficile. Et ça, c'est pour comprendre la deuxième date, 1679, l'embarquement. Cette économie maritime extrêmement dynamique a été très prospère jusqu'à l'édit de Nantes. Même les dernières années des guerres de religion ont été très rentables pour les Rochelais. Il y a un pasteur de La Rochelle qui, dans son journal en 1595, donc on est 3 ans avant l'édit de Nantes, dit très clairement « Nous n'avons jamais eu autant d'argent dans cette ville ». Donc c'est une ville extrêmement riche. Elle a tiré sa richesse de quoi ? Bah, de toutes ses entreprises maritimes, mais aussi et surtout d'une entreprise maritime très particulière qui s'appelle la course, c'est-à-dire la piraterie, la chasse aux galions espagnols, etc. Et notamment, les tours de La Rochelle sont célèbres, et la tour de la Chaîne à La Rochelle était là où on entassait ce qu'apportaient les corsaires protestants, et notamment Henri de Navarre, Jeanne d'Albret, qui donnait ses lettres de course, exigeaient 20% des prises. Et cela a permis, en grande partie, de tenir le budget des troupes huguenotes à partir des années 1580. Henri de Navarre n'aurait jamais pu remonter vers le nord à la fin des années 1580 s'il n'y avait pas eu le butin des entreprises maritimes de l'Atlantique. Et ça, c'est un point sur lequel on n'insiste jamais assez, qui est un point essentiel. La prospérité va être en fait cassée, non pas donc par les guerres de religion, mais va être cassée par le grand siège de La Rochelle. Le siège de La Rochelle, on le connaît, c'est la capitulation de 1628. Bon, parallèlement, la guerre est aussi en Cévennes, il faut rappeler Privas, etc., les guerres de Rohan. Mais le siège de La Rochelle, il a commencé dès 1622, dès la première opération où Louis XIII est descendu depuis Paris pour casser toutes les places de sûreté huguenotes et où une seule ville, il n'y touche pas au début, c'est La Rochelle. Mais par contre, toutes les villes de sûreté huguenote qui ceinturent et protègent La Rochelle sont cassées, récupérées dès 1622-1623. Il y a un fort qu'installe Louis XIII et Richelieu dès 1626. Il y a une défaite navale importante. Autrement dit, pour aller vite, le grand siège, ne jamais oublier, c'est la soumission d'une des grandes villes huguenotes. Mais dans l'esprit du cardinal de Richelieu, c'est pas que cela. Le cardinal de Richelieu est évêque de Luçon, c'est à quelques 50 km au nord de La Rochelle. Le cardinal de Richelieu est un homme qui sait investir, qui est très proche, on dirait aujourd'hui, du lobby militaro-industriel du temps. Et casser La Rochelle, c'est surtout casser des concurrents sur le plan économique. Et La Rochelle est cassée. Et La Rochelle va mettre 30 ans à reconstituer sa flotte. C'est-à-dire entre 1630 et 1660. 30 ans à reconstituer sa flotte, 30 ans qui vont permettre surtout à La Rochelle de retrouver une place dans l'Atlantique. Et si en 1679, un petit marin huguenot né à Moëse, 16 ans ou 17 ans avant, peut embarquer à La Rochelle, c'est parce qu'en 1679, 6 ans avant la révocation, on est à une période d'apogée de la marine commerciale rochelaise. Les Rochelais ont le monopole de la traite de la fourrure en Nouvelle-France. En échange du ravitaillement de Québec et de Montréal, ils exigent d'avoir la totalité des fourrures à ramener en France. Et ça, c'est un point essentiel. Dès 1650, les bateaux Rochelais sont parmi les plus nombreux à Saint-Domingue, aux Antilles. Non pas dans la traite. La Rochelle est peu engagée dans les premières opérations de traite négrière. Là où La Rochelle est une des spécialités, c'est ce qu'on appelle en direct, c'est ce que fera Elino. C'est-à-dire, j'apporte aux Antilles ce que j'apporte à Québec et Montréal, c'est-à-dire la farine, le vin, l'eau de vie de cognac, etc. C'est-à-dire qu'on ravitaille et par contre, on ramène le tabac, le sucre, l'indigo. Il n'y a quasiment pas d'opération de descendre vers l'Afrique. Ça c'est plus tard, c'est au XVIIIe siècle, après 1760. Mais là, on est sur ce qu'on appelle l'opération directe.
Bâtiment. Pour aller faire la course de dans les mers du Levant. À la feuille s'envole, s'envole, à la feuille s'envole au vent.
À la feuille s'envole, s'envole, à la feuille s'envole au vent.
Et Lino, c'est donc pas très étonnant. Si en 1679, il peut embarquer pour les Antilles, c'est tout simplement parce que il y a entre 400 et 450 bateaux qui partent par an à cette époque-là vers les Antilles depuis la Rochelle, vers les Antilles et le Canada. Le Canada, 10 bateaux par an, les Antilles, entre 300 et 350. Hein. Bon, donc voilà l'ampleur du trafic. Donc, trouver un embarquement, c'est simple. Il commence comme mousse. Il commence comme simple mousse. Et vraisemblablement, quand on regarde à partir des généalogistes, il n'y a pas tellement de renseignements. À l'évidence, il était facile pour la famille Hinault de trouver un capitaine pour pouvoir l'embarquer. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il ne reviendra pas. Il partira, mais ne reviendra pas. Ou tout du moins, s'il est revenu, c'est discrètement. Mais en 1679, d'après ce qu'il dit, il est parti aux Antilles et, je parle en français du 21e siècle, compte tenu des informations que j'ai de France, j'ai décidé de ne pas rentrer. 1679, c'est un moment où la monarchie reprend la répression contre les protestants. 1679, par exemple, il y a un texte très important qui annule ce qu'on appelait les chambres mi-parties, c'est-à-dire ces chambres qui permettaient la protection judiciaire des protestants. C'est une date absolument essentielle. Ensuite, on parle souvent en 1680 des dragonnades dans le Poitou. On est en 1679. Alors, est-ce que nous, on ne sait pas la date à laquelle ils refusent de partir? Est-ce 1680, 1681? Mais ce qu'on oublie généralement, c'est que les premières opérations de police et militaires avant le Poitou 1681 commencent avec l'intendant de Rochefort de Main dès les années 1679. De plus, en 1679, on commence à avoir une série de procédures contre les pasteurs. Le pasteur sur lequel je prépare actuellement un ouvrage, Élie Merlat de Sainte, ben sur le pasteur Merlat, 1679, comme par hasard, l'évêque de Sainte porte plainte contre Élie Merlat pour un livre qu'il a publié. Donc, pour les protestants, l'année 1679, c'est une année où ils ont l'impression de revivre ce qui s'est passé dans les années 1661-1665, où on oublie que 20 ans avant la révocation, il y a quand même eu 300 lieux de culte qui ont été interdits en France, hein, au début du règne personnel de Louis XIV. Donc, ils ne rentrent pas. Et la seule trace qu'on a de lui après, 1685, Boston. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1680 et 1681? Eh bien, vraisemblablement, Saint-Domingue, Saint-Eustache, la Jamaïque, les Antilles françaises, 1679-1685. On a des éléments, et dans le livre « Les Huguenots et l'Atlantique », un collègue notamment a travaillé sur le nombre de marins huguenots du rivage atlantique, qui ne rentraient pas forcément au bout d'un voyage, ils restaient un an, deux ans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, généralement, soit ils restaient à Saint-Domingue, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, jusqu'en 1680, le gouverneur est un ancien protestant, mais un protestant, et qui vraisemblablement, et on le voit à certaines choses, tolère la présence de protestants, alors que théoriquement le protestantisme est interdit dans les colonies françaises, il faut le rappeler. Bon. Ou, chose plus importante, et on a des traces archivistiques permettant de le prouver, ils se mettent à faire du trafic de contrebande, ce qu'on appelle l'interlope, entre ce qui est interdit. Il est interdit aux commerçants de français de travailler avec les Anglais de la Jamaïque, avec les Néerlandais de Saint-Eustache. Mais bon, les Néerlandais, ce sont les premiers importateurs en Europe de tabac. Ils ont besoin quelquefois du tabac qui manque dans leur... Alors ils essaient d'acheter discrètement du tabac à Saint-Domingue. Et donc on s'aperçoit que ces protestants huguenots, eh bien, ils font embarquer sur des navires néerlandais, des compagnies hollandaises de commerce. Ils vont en Jamaïque. Et il y a tout un travail, et toutes ces îles des Antilles... Moi, j'ai dit que c'était un lieu d'attente du refuge, ces Antilles, avec ce qu'on sait, ce qui s'est passé. Ils sont en attente. En fait, ils ne reviendront que si les choses s'apaisent. Mais ça leur pose aucun problème, parce que Hollandais et Anglais, embarquer des Huguenots, ça pose aucun souci, notamment du côté des Néerlandais. Il ne faut pas oublier qu'il y a des liens, il y a toujours eu des liens très forts entre La Rochelle et les Pays-Bas. Dans les années 1566, quand les Pays-Bas, sous domination espagnole, se soulèvent contre les Espagnols et que les troupes espagnoles réussissent à contrôler ce qu'est la Belgique actuelle, etc., ce qui va faire la force des rebelles néerlandais en majorité protestante, mais tous n'étaient pas protestants, eh bien, ça va être leur marine. Et la marine néerlandaise, dans la Manche, elle a quelques difficultés. Quelle est la base où se réfugient tous les navires néerlandais, ceux que l'on appelle les gueux de mer? C'était La Rochelle. On a encore des insignes, des gueux de mer. On a deux exemples au musée Rochelet, au musée d'histoire protestante à La Rochelle. Ce qui fait que pour des Huguenots de Saint-Onge, des Huguenots d'Aunis, monter sur des navires néerlandais, ça ne posait pas de problème. J'ai un collègue, Willem Freyhoff, qui a travaillé sur les archives notariales de La Rochelle. Il relève des centaines de contrats d'armement où vous avez des marchands néerlandais installés à La Rochelle, un capitaine Rochelet, un équipage néerlandais, anglais, français, etc. Comme on a reparlé, on a dit à un moment que ces bateaux, c'était l'international calviniste. En plus, la langue ne pose pas de problème. Ce collègue, Willem Freyhoff, constate que très souvent dans les contrats, on demande à ce qu'il y ait un traducteur. Visiblement, quand ce sont des contrats entre néerlandais et Rochelet, il n'y a pas besoin de traducteur. Hein. On se comprend entre néerlandais, on se comprend entre néerlandais et Rochelet, et on se comprend sans difficulté, y compris avec les Anglais. Donc, ces marins Rochelet. Et Lino fait partie, vraisemblablement, de ces centaines, voire peut-être milliers de marins qui assurent le lien entre La Rochelle et les Antilles, mais qui ne rentrent pas tout le temps. Et à partir de 1682, on a notamment un capitaine qui, rentrant à La Rochelle, dit à l'armateur « J'ai mis un an à rentrer parce que je n'avais pas suffisamment de matelots pour rentrer. » Ça veut dire qu'il y a une désertion des marins protestants extrêmement importante. Et il n'y a pas de matelots catholiques permettant de remplacer. Ça se fera dans les 15 ou 20 ans plus tard, mais ce n'est pas le cas à ce moment-là. Il se réfugie à Boston en 1685. Pourquoi à Boston? D'abord parce que les dragonnades sont passées. Et quand il s'installe à Boston, il ne faut pas oublier qu'il y a la grande dragonnade du Midi, qui date de printemps 1685. Autrement dit, c'est très clair. Et quand il arrive à Boston, il y a déjà des familles qui se sont réfugiées. Il se marie à Boston avec Suzanne Paré. Suzanne Paré, elle est avec ses parents. Elle vient d'où? Elle vient de La Rochelle. Est-ce qu'il connaissait la famille dès 1679? On n'a pas d'éléments, mais il se marie avec une Rochelaise à Boston. Et à la Société d'histoire du protestantisme à Paris, il y a un document extrêmement intéressant qui date de 1685, où il est dit, je le cite dans le livre, je n'ai pas le temps de vous le lire, « Nous voyons arriver tous les jours en cette ville les marins protestants venant des Antilles. » Bon, donc les choses sont claires. Et ce sont donc, on le dit, plusieurs centaines qui se réfugient à Boston. Il ne reste pas à Boston, il part à New York. Entre ces deux moments-là, il a effectivement des armements. Mais pourquoi va-t-il à New York? Tout simplement parce que New York est une ville qui est en plein développement économique et notamment de grands armateurs huguenots se sont installés à New York. Une collègue, Sarah Carlo, une collègue new-yorkaise, a travaillé sur la communauté huguenote de New York et a pu évaluer que sur 22 des plus grands armateurs new-yorkais en 1685, 17 sont des Français, 17 sont des Huguenots, dont 14 sont originaires d'Aunis et de Saint-Onge, essentiellement de La Rochelle. Autrement dit, le haut du négoce à New York sous Louis XIV est en fait tenu par des négociants huguenots originaires pour l'essentiel du littoral atlantique. Et là, on va lui confier en 1691, pour la première fois peut-être, on n'a pas de trace avant, il en parle peu, on va lui confier un navire. Et il doit aller chercher, alors ça c'est une route classique, on va chercher le sucre en Jamaïque. Le seul problème, c'est qu'arrivé en Jamaïque, il est arrêté par un corsaire de Saint-Malo, qui le ramène en 1692. Alors c'est un peu spécial, parce qu'en fait c'est une pratique des corsaires malouins. Les corsaires malouins montaient des petits navires, une centaine, 100-120 tonneaux, des petits navires, mais extrêmement rapides, avec peu d'hommes. Ils s'attaquaient avec des navires de commerce qui étaient beaucoup plus gros qu'eux et avec 15 à 20 hommes d'équipage. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On n'allait pas prendre le bateau, c'est compliqué de prendre le bateau. En fait, ce que on saisissait le capitaine, le second, on le ramenait en France et on demandait une rançon à l'armateur dans les colonies.
Radio FM+, réseau associatif régional en Languedoc méditerranéen, émettant sur Montpellier et Nîmes, l'historien Didier Poton nous fait entrer dans la vie malheureusement aventureuse d'un marin rochelais qui a dû quitter la France après la révocation de l'édit de Nantes. Il poursuit.
Le résultat, c'est que là, Elino, capitaine du navire, se retrouve à Saint-Malo. Il se retrouve à Saint-Malo et il attend que le boiteux, c'est le nom de l'armateur Huguenot de New York qui l'a nommé comme capitaine, envoie la rançon. Le seul problème, c'est qu'arrivé à Saint-Malo, on s'intéresse à lui. Qui s'intéresse à lui? La justice du roi. Et ce sont les juges de l'amirauté. Elino, c'est un nom français, présenté comme un capitaine de navire anglais. Bon, et le résultat, c'est que les juges de l'amirauté l'arrêtent et vont ressortir toute la législation de Louis XIV qui interdisait aux marins français de sortir. Alors au début, on a une législation qui date dès les années 1663. Au moment de la série de guerres maritimes de Louis XIV, il est interdit à un marin français de sortir sans un passeport, sans autorisation. Autrement dit, en 1679, si Elino et les marins peuvent sortir, c'est tout simplement parce que les capitaines, les armateurs ont des passeports permettant la sortie. Mais en 1679, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, suspense, il y a un autre texte qui est important. C'est que désormais, ce ne sont pas des textes interdisant aux marins français de partir. On interdit aux marins de la RPR, c'est-à-dire aux protestants, de sortir. Là, ce sont eux qui sont particulièrement visés. Et à partir de ce moment-là, la justice considère qu'Elino tombe sous les coups de cette législation qui interdit à un marin. Il est resté, il est déserteur. Il est protestant, déserteur, etc. Bref, il a tout contre lui. Les négociants malouins sont très embêtés. Les négociants malouins sont extrêmement embêtés parce que eux, ils veulent absolument récupérer la rançon. Si Elino est arrêté et envoyé aux galères, comme le veulent les juges de l'amirauté, ils perdent la rançon, ils perdent l'opération. Donc qui fait appel au Parlement de Rennes? Elino fait appel au Parlement de Rennes pour éviter les galères. Mais il est soutenu par les corsaires catholiques malouins, qui, eux, veulent que le Parlement casse la décision parce qu'eux, ils voient le côté spéculatif, économique de l'affaire. Ils perdent tous les deux. Et le résultat, c'est qu'en 1693, il est condamné aux galères. Et il y a cette longue chaîne, la chaîne de Bretagne, qui part de Saint-Malo, Rennes, Angers, Moulins, Lyon, Pont-Saint-Esprit, Marseille. Donc, en vert, c'est son trajet. 200 galériens. 200 galériens qui mettent près de 2 mois et demi à faire le trajet, dans des conditions dantesques, où généralement on en perd 1 sur 4. Alors il faut savoir que c'est pas l'administration qui s'occupe, ce sont en fait des entreprises privées à qui on sous-loue l'opération. Donc le résultat, c'est que ces hommes qui sont des entreprises de voyage des galériens ne les nourrissent pas, les mettent dans des conditions terribles, parce que ça permet de détourner l'argent que donne l'administration royale pour le transport des galériens. Donc ils arrivent totalement épuisés. La chaîne de Bretagne, c'est l'une des chaînes les plus épuisantes, dans la mesure où c'est une des chaînes les plus longues. Et même s'ils ne font pas à pied Lyon, Pont-Saint-Esprit, Marseille, parce qu'ils montent à bord d'étapes sur le Rhône, sur des barques, etc., l'épuisement est total. Donc, 1793, il se retrouve aux galères à Marseille, 6 mois sur la Vieille Madame, c'est le nom de la galère, 6 mois sur la Magnanime. Rassurez-vous, il n'a vraisemblablement pas navigué, quasiment pas de galériens huguenots ont navigué. En fait, ils étaient attachés aux galères. Simplement, au bout d'un an, Elino paraît comme étant un des plus opiniâtres. Alors ça veut dire quoi, un des plus opiniâtres? Eh bien, il y avait une tradition chez les galériens protestants, c'était de temps en temps d'entonner les psaumes. D'entonner les psaumes, c'était un acte de résistance non violente. Et semble-t-il que Elino n'était pas un des derniers. Le résultat, c'est qu'il est retiré de la galère, mauvais exemple, et avec 10-15 d'entre eux, ils sont enfermés dans la citadelle, une citadelle à Marseille. Et comme les conditions ne sont pas assez fortes, c'est parce qu'au bout de 3-4 mois, ils refusent l'abjuration. eh bien, dans ces cas-là, étape ultime, eh bien, on le met au château d'If, qui est la pire des conditions pour pouvoir survivre. Alors, on a un certain nombre d'éléments. D'abord, on a un galérien du Poitou qui a pu transmettre une lettre où il dit « Est arrivé aujourd'hui un marin anglais, mais qui est un Rochelais. » Donc, on a un peu sa date d'arrivée. Les conditions pendant cette période 1793-1794, c'est 4 ans d'enfermement dans le château d'If. Alors, on a un certain nombre... On a des descriptions... des conditions très très dures sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'hygiène, etc. Il y a des pressions extrêmement fortes, il y a des convertisseurs qui viennent au moment où tout d'un coup on oublie de les alimenter, par exemple, ou en période d'hiver, il fait extrêmement froid, vous devriez vous convertir, etc. Ils se plaignent. Et l'intendant fait faire une enquête. Il y a un médecin qui vient, et le rapport du médecin, on l'a, et il explique que mais ils vont très bien. Mais en fait, ils ont été changés de cellules, on les a mis dans de bonnes conditions, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si fermé que cela. Et Lino dit qu'il a réussi à avoir une Bible en anglais. Et c'est grâce à cette Bible en anglais qu'il a pu continuer à lire, etc. Et qu'il a trouvé son chemin spirituel. Il y a aussi d'autres ouvrages qui circulent. Et pendant ces 4 années-là, le moment important du château d'If, quand on voit transformer ce qu'il écrit, on a envie de dire en anglais « born again ». C'est-à-dire que ce moment d'enfermement, c'est aussi une expérience mystique, et à un tel point qu'on va appeler Lino le mystique des galères. Hein, c'est son surnom qui est donné. Ce mystique des galères, il va... réussir à passer des lettres à l'extérieur. Et on est frappé quand même, hein, la Bible anglaise rentre. Hein, bon, la corruption, ça existe chez les gardiens, chez les marins, c'est comme ça que ça circule. Mais, surtout, il va être héroïsé par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jean Morin. Alors, qui est Jean Morin? C'est Jean Morin, s'il n'existait pas, nous n'aurions quasiment rien sur Élie. Jean Morin, c'est son pasteur. C'est le pasteur qu'il a eu et qui lui a fait son éducation religieuse à Moëz. Jean Morin, il est réfugié à Berg-op-Zoom, au nord, dans les Provinces Unies, et il garde le contact à la fois avec les familles qui sont restées en France, sur lesquelles il n'a pas une excellente opinion. Ceux qui sont restés en France, pour le pasteur Jean Morin, sont ceux qui ont cédé. Une partie des familles sont autour de lui. Ça, c'est un travail qu'on commence à faire. Hein, l'importance du pasteur qui agrège autour de lui des familles qui viennent de son église d'origine. Et Jean Morin apprend que deux de ces à qui il a fait le catéchiste dans les années 1663-1670, Bridon et Nau, sont aux galères. Et Morin va entretenir une correspondance avec Elino depuis les Provinces Unies. Et quand il découvre ces échanges, c'est lui qui va publier au début du XVIIIe siècle en 1701 l'ouvrage qu'il construit à partir d'extraits des lettres qu'il envoie à Elino, d'extraits de lettres que Elino envoie, des cantiques et des psaumes qu'écrit Elino au château d'If et il les met à la fin de l'ouvrage. Autrement dit, c'est Jean Morin, le pasteur, qu'il a eu enfant, qui lui a fait son éducation, qui va construire le livre à sa gloire. C'est lui qui va le construire comme confesseur du Christ. En 1698, il sera libéré sur intervention de la monarchie anglaise. Et la monarchie anglaise, là, il n'y a pas essayé de libérer les Huguenots. C'est une démarche de l'ambassadeur d'Angleterre en France qui exige que les Anglais soient libérés. Alors, il y a un débat sur la naturalisation des Linots. J'y reviendrai rapidement. Mais ça marche. Alors, c'est 7 ou 8 libérés. Les Provinces-Unies vont réussir au moment de la paix de Ryswick. C'est la paix de Ryswick de 98. Il y a un accord sur les échanges de prisonniers. Bon, on met quelques Huguenots qu'on va libérer dans le cadre des échanges de prisonniers. Mais ça veut dire que le réseau auprès de la monarchie britannique a fonctionné. Tout à l'heure, je vous ai dit, n'oubliez pas qu'il a obtenu une Bible en anglais au château d'If. Donc il y avait un véritable travail auprès des galériens de soutien qui venait de Suisse, qui venait des Pays-Bas, mais qui venait aussi d'Angleterre. Il y a vraisemblablement aussi le rôle de la famille à New York, qui essaie d'influencer, d'essayer de faire sortir le mari, le père des... Bon. Résultat, il sort, il va à Neuchâtel, Provinces-Unies, et en quoi c'est important? Et aux Provinces-Unies, qu'est-ce qui l'attend? 300 livres anglaises. L'envoi du roi d'Angleterre pour qu'il puisse envoyer ces 300 livres acquis aux galériens à Marseille. Donc, il fait partie d'un réseau de soutien aux galères. C'est un exemple. Alors, le livre n'est pas encore publié. Mais quand, en 1701, le pasteur Morin va publier ce livre sur le mystique des galères, sur un des plus grands confesseurs du Christ, la préface, c'est le remerciement à l'ambassadeur d'Angleterre en France. Donc, les choses sont claires. En 1704, arrivé à New York, on sent qu'il y a, au bout de 6 ans, il joue un rôle important dans la communauté huguenote de New York, environ 1 millier de personnes, pas négligeable. Il fait partie du consistoire. Et en 1704, on le voit passer à l'anglicanisme. Il le voit passer à l'anglicanisme et il le justifie auprès du pasteur Morin en disant « Si je veux continuer dans mon métier de marinier, il me faut devenir anglais. » Et devenir anglais, pour lui, dans son esprit, c'est aller vers l'église presbytérienne, c'est l'église d'Angleterre. Donc, on a l'impression que ce n'est pas un choix religieux, que c'est un choix professionnel, et il va jouer un rôle important dans l'église anglicane. Alors l'église anglicane, dans les colonies anglaises d'Amérique, c'est particulier, c'est beaucoup plus facile pour les Huguenots qu'en Angleterre, il n'y a pas d'évêque. C'est l'évêque de Londres qui est le sommet de la hiérarchie des églises anglicanes dans les colonies anglaises. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, les Huguenots intègrent l'église anglicane dans les colonies plus facilement parce qu'il n'y a pas la chape de plomb, je dirais, hiérarchique que l'anglicanisme a conservée. C'est anglaise. Mais, et dans une deuxième lettre, Elino, en 1702, le dit très bien, il a dit « On ne m'accusera plus ainsi d'être dissenter », c'est-à-dire d'être dissident. Alors, il va être catéchiste dans l'église d'Angleterre, et c'est dans le cadre de sa mission dans la communauté anglicane de New York qu'il va fonder cette école. Une école qui va avoir une 20aine d'élèves à partir de 1704, va avoir jusqu'à 80 élèves, noirs, amérindiens. Et cette école a profondément marqué les esprits. D'abord, elle a secoué la communauté. Elle a secoué la communauté globale, la communauté de New York. D'abord parce que, et ça c'est un point sur lequel on travaille dessus, j'ai un collègue canadien qui travaille sur la question, le comportement des Français vis-à-vis des Amérindiens est totalement différent selon qu'on est catholique ou selon qu'on est protestant. Selon qu'on est catholique, on voit la Nouvelle-France, conversion, et même, il y a eu un livre important de Gilles Avard sur le fait que le métissage n'était pas interdit, etc. Donc, à partir du moment où un Amérindien était baptisé, les mariages mixtes étaient possibles. Mais ce qui frappe, c'est que du côté des colonies anglaises, il y a hermétisme. Et notamment, il y a une amérindienne dans un mémoire qui explique qu'elle ne comprend pas pourquoi les hommes en noir ne s'occupent pas d'elle et n'essaient pas de les convertir comme les jésuites. Et en fait, les hommes en noir, c'était des pasteurs néerlandais qui habitaient Albany. Mais pour les néerlandais, parce que New York, avant New York, c'était New Amsterdam, il ne faut pas oublier, le pasteur emmené dans les compagnies néerlandaises de commerce, sa pastorale, c'était les colons. Il n'avait absolument pas la mission de convertir les Amérindiens ou de convertir les premiers esclaves. il n'y avait pas d'opération de conversion. Ce que l'on constate, c'est que du côté protestant, les 3-4 opérations de conversion que l'on connaît, elles viennent des Huguenots, viennent des Français. Et quand il explique l'origine de son école, alors c'est une école où on apprend à lire et à écrire, mais c'est une école qui entend convertir. Il faut que les enfants de nègres, entre guillemets, c'est une citation, il le dit, deviennent des chrétiens. Alors ça pose des difficultés quand même, parce qu'en 1714, il y a une révolte. Et comme par hasard dans la révolte, la première révolte d'esclaves à New York et d'Amérindiens, il y a un bon nombre d'élèves d'Elino. Et là, il y a une pression des propriétaires en disant « il faut fermer cette école ». En fait, c'est un lieu où se prépare la révolte des esclaves, etc. Et Elino est obligé de faire une lettre au gouverneur pour défendre son école en disant « le baptême leur apporte la liberté spirituelle, mais il ne s'agit pas de s'engager dans une liberté terrestre ». Autrement dit, il n'y a pas d'abolition de l'esclavage à la sortie de cette école. Il veut d'abord en faire des chrétiens, mais on sent que dans cette phrase, c'est pour plus pour protéger son école, mais qu'il y a un lien extrêmement fort entre Elino et ses élèves. Il réussira à protéger son école. Elle existera donc jusqu'à sa mort en 1722. Il faudra que 1718-1720, il aura du soutien de tous les courants bibliques qui arrivent d'Angleterre, qui lui envoient des Bibles pour son école, ce qui prouve qu'il a un soutien de l'Association pour la diffusion de la Bible, etc. D'Angleterre, on le soutient dans le travail qu'il fait auprès des esclaves africains et auprès de petites minorités amérindiennes. Autrement dit, il joue un rôle absolument décisif, puisqu'il n'y a que 3 écoles à New York en 1715, et une des 3 écoles, c'est celle d'Elino. Donc c'est un personnage qui, aujourd'hui, quand on en parle à New York, est relativement peu connu, alors que rien que dans le domaine de l'éducation, rien que dans le domaine de l'instruction religieuse, c'est quelqu'un d'absolument fondamental et qui devrait avoir sa place dans la mémoire religieuse de la ville de New York. On le disait tout à l'heure, Elino, ce qui est un peu exceptionnel dans cette épopée, c'est que son avis commence de... C'est une totale banalité. Elino, c'est un marin, la famille de marins, sur un littoral. Autrement dit, tout le début de sa vie est d'une extraordinaire banalité. Et puis, elle termine de manière exceptionnelle. Et on sent à quel point la période des galères, c'est-à-dire cette période notamment de l'incarcération au château d'If, entre 1494 et 1498, ces 4 années, ça a vraiment été un moment fondamental sur le plan spirituel. Et il y a notamment un texte de lui, j'ai peut-être le temps rapidement de vous lire un extrait. Cet dernier article est fortement imprimé dans mon cœur, car je suis très persuadé qu'il n'y a que la grandeur de mes crimes énormes qui ont irrité la clémence de mon Dieu et qui tiennent encore aujourd'hui sa main levée sur moi pour me punir. Mais que dis-je, monsieur ? Il s'adresse à Morin. C'est plutôt sa miséricorde qui m'embrasse à présent au lieu que les ondes de sa justice m'inondaient. Quand j'étais dans le monde en pleine liberté et qu'il me permettait que je multipliasse mes ordures, jusqu'à ce qu'enfin il a eu pitié de moi, sa verge a arrêté le torrent de mes iniquités. Oh, qu'il m'est bon d'avoir été affligé, car hélas, avant que de l'être, j'allais à l'envers à travers champs. Ô Dieu, je t'en rends louange et grâce immortelle, et toutes les puissances de mon âme avec les membres de mon corps t'en glorifieront dans le temps et dans l'éternité. Au reste, Dieu qui contemple les mouvements de mon cœur sait très parfaitement que j'aime mes ennemis. Je dis ceux qui m'ont jugé et ceux qui me tiennent encore dans les liens. Je plains leur malheur, je prie de tout mon cœur le Seigneur qu'il leur pardonne. Ils ne cessent point de nous oppresser. Notre joug est aussi pesant qu'il n'a jamais été. Car, monsieur, on n'a rien relâché de cette grande sévérité qu'on exerce sur nous depuis 20 mois, à la réserve que depuis la mort de ce pauvre fidèle, un galérien, mais avec qui j'étais, on nous a permis de nous faire saigner, etc. Mais sortir du monde, c'est sortir des impuretés. Donc, il y a l'idée que ces 4 années, ce que j'évoquais, c'est born again. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est que ce parcours spirituel va l'emmener dans une mission extrêmement particulière qu'est cette école de New York, dans cette école de New York. Et là, il devient exceptionnel. Mais vraisemblablement, ce que n'avait pas prévu le pasteur Morin, qui décède en 1712, autrement dit, qui ne verra pas l'école d'Elino jusqu'en 1722, et on n'a pas de correspondance entre Morin et Elino à ce retour de New York. Et le livre est publié par Morin en 1701 en Angleterre et en 1704 après. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que Jean Morin ne s'attendait vraisemblablement pas à ce que le parcours spirituel d'Elino s'investisse dans cette école. C'est un parcours donc extrêmement saisissant, mais par contre, il est absolument évident que le livre a circulé. Il y a une version anglaise à Londres. Le livre a circulé. J'ai fait savoir s'il y avait un exemplaire dans les bibliothèques américaines. On n'en a pas retrouvé. Mais le livre a dû circuler. Autrement dit, ce que le pasteur Jean Morin a fait pour le petit matelot et l'enfant de marin Saint-Onget qu'il a éduqué dans les années 1660-1670, ce qu'il a fait, c'est en le construisant comme confesseur, en le construisant comme mystique, quand il est revenu à New York, eh bien, il est évident que ce n'était plus le capitaine qui rentrait, mais c'était le confesseur du Christ. Et le livre a participé, bien entendu, et a été un outil de reconnaissance dans la communauté huguenote, a été un outil de reconnaissance à Londres, a été un outil de reconnaissance pour qu'il puisse s'investir dans son projet d'école. Et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel dans l'histoire du refuge. Quelques 3000 huguenots se sont réfugiés dans les colonies anglaises d'Amérique, mais Elino a une place extrêmement particulière, justement, avec cette école. Je vous remercie.
De Frank Bulloir, directeur de la librairie et historien lui-même, au vivant récit de son invité Didier Poton.
Bien, merci pour cette présentation et pour ce parcours remarquable de cet homme. En vous écoutant, je redécouvre à nouveau cette épopée et j'avoue que je suis frappé, impressionné par deux choses. D'abord, évidemment, l'engagement d'Elino après son passage au château d'If et ce que vous avez appelé ce mouvement que vous comparez au Born Again et ce mystique protestant. Alors, on pourrait discuter du terme, évidemment, hein, parce que je ne pense pas que chez Elino, il y a du Jean de Labadie ou voilà, ce genre de mysticisme. Mais il n'empêche, c'est vrai qu'il fait une véritable expérience spirituelle et qu'on a le sentiment qu'il a une vraie connaissance personnelle à ce moment-là de Dieu au travers de les lectures de la Bible, hein, vous l'avez très bien dit. L'autre chose qui me marque, ce qui est très courant dans le protestantisme français, on loue souvent la mémoire huguenote, on oublie que les huguenots ont oublié Marie Durand pendant de nombreuses années, qu'il a fallu le travail de Daniel Benoît pour faire connaître Marie Durand, qui, même chez elle, en 1884, quand Daniel Benoît se rend dans son village, on ne sait plus qui est Marie Durand. On ne sait plus qui est Marie Durand. Donc il a fallu le travail d'un historien pour faire redécouvrir cette figure qui, aujourd'hui, est la figure mise en avant, hein, plutôt que les camisards, comme figure de la résistance, parce que, justement, elle incarne une résistance pacifique. Et, évidemment, ce qui, pour moi, m'attriste, c'est que cet Elino pourrait aussi, et actuellement ne l'incarne pas, hein, pourrait aussi incarner cet autre aspect d'une résistance pacifique, parce que dans le château d'If, dans les galères, même si ça n'a pas duré 38 ans, Cet homme a vécu un véritable enfer. Enfin, je vous invite vraiment à découvrir ce personnage au travers de ce texte restitué ici par Didier Poton. Mais c'est un véritable enfer qu'il traverse. On n'imagine pas ce que c'est une chaîne de galériens qui est livrée véritablement en spectacle face à tous ces villageois, ces villages qu'il traverse et ainsi de suite. On n'imagine pas ensuite, vous l'avez décrit quelque peu, l'horreur des conditions de ces prisonniers qui sont dans des culs de basse fosse, les murs suintent d'humidité, c'est à peine si on leur donne un quignon de pain, et ça c'est pas une journée, ce sont des jours qui se multiplient, des mois, des années, et c'est au milieu de ça que cet homme redécouvre la Bible, la lit, et résiste, est opiniâtre, comme vous l'avez dit, d'abord dans les galères, en chantant les psaumes. Il y a là une figure, il me semble, extraordinaire, et j'espère en tout cas que cette conférence, cet ouvrage et peut-être la ville de New York. Alors évidemment, on a du mal à pas regretter le temps où les mille huguenots de New York tenaient le négoce new-yorkais, comme vous l'avez dit. Alors, aujourd'hui, les huguenots ont disparu. En tout cas, il reste très peu de la mémoire huguenote là-bas.
Y a une petite mémoire huguenote.
Il y a une petite mémoire huguenote, oui.
À New Rochelle.
Voilà. Mais en tout cas, on espère que cet ouvrage contribuera à faire redécouvrir la figure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des éclaircissements que vous voudriez avoir sur certains points, des remarques.
Une question donc, pour le temps qui nous reste à l'antenne.
Je voulais savoir, pour rapport à Elino, il a été exilé parce qu'il y a une loi qui oblige les Français, quand ils veulent quitter la France, ils doivent le dire. Ben pourquoi il n'a pas changé de nationalité, tout simplement?
Pourquoi il n'a pas...
Il n'a pas changé de nationalité.
Alors, quand il part en 1679, c'est un des marins qui part dans les 400 bateaux qui vont au-delà de l'Atlantique dans le cadre du commerce. Donc il n'avait aucune raison de changer. De plus, il faut savoir que les éléments que nous avons, on a très peu de choses, ils sont persuadés la plupart que cette deuxième vague de répression des années 1679, c'est qu'un mauvais moment a passé. Hein? On aura le même sentiment après 1685, la révocation. Il y a beaucoup de fugitifs, et notamment Bertrand van Runebeck, dans un ou deux textes, l'a montré. Ils sont persuadés qu'ils vont revenir en France, que ça ne va pas durer. Et ce n'est que 5-10 ans après qu'ils se disent, bon, il n'y a pas de doute, il va falloir s'établir parce que Louis XIV ne reviendra pas sur la révocation. Donc au début, pour ces hommes, ils se mettent à l'abri. Deuxièmement, il y a l'idée qu'ils peuvent continuer leur métier aux Caraïbes et dans les Antilles. Et dès qu'on commence à avoir des ordres qui arrivent de France de se méfier des protestants à Saint-Domingue, à la Martinique et à la Guadeloupe dans les Antilles françaises, qu'on change les gouverneurs qui sont un peu trop gentils avec les protestants un peu trop tolérants, là, on voit très nettement qu'ils partent en Jamaïque et qu'ils partent. Mais pour eux, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. En fait, quand il va à Boston, il ne change même pas aussi. On n'a pas de date précise sur sa naturalisation anglaise. En fait, comme le montre Bertrand van Runebeck, il y a deux étapes pour un protestant pour être protégé du roi d'Angleterre. Il y a ce qu'on appelle la désignation, denization, c'est-à-dire que là, c'est le roi d'Angleterre qui prend sous sa protection telle ou telle personne. C'est un lien personnel. Bon. Deuxième étape, la nationalisation, c'est-à-dire le roi d'Angleterre, mais aussi le Parlement d'Angleterre, qui octroie une lettre de naturalisation. Et il y a ces deux étapes. Or, ce qui se passe, c'est que beaucoup de huguenots n'ont eu que la première étape dans un premier temps. Autrement dit, ils restaient français, mais ils étaient sous la protection du roi d'Angleterre, tout simplement parce que, j'ai envie de dire, on est un peu dans le droit d'asile. La liberté de conscience n'existe plus en France. Je me mets sous la protection du roi d'Angleterre, le temps que ça va durer. Mais je reste français. Et ce n'est que quand il revient à New York, après avoir passé les galères, et qu'il, je l'évoquais, il décide de demander de devenir anglais, et pour lui, devenir anglais va de pair avec devenir anglican. Et là, il obtient effectivement. Mais Bertrand von Riedebeck montre notamment que très souvent, il y a eu une confusion entre les deux termes et que l'administration française et la justice française jouaient là-dessus. Pour les juges de l'amirauté de La Rochelle, il n'a pas pu démontrer qu'il était anglais. Et effectivement, il ne l'était pas quand il a été arrêté. Il était simplement sous la protection du roi d'Angleterre. Donc pour la législation française, c'est un marin fugitif qui a trahi son pays pour se mettre au service d'un roi ennemi. Alors il ne faut pas oublier qu'en plus, à ce moment-là, on est très très sensible, notamment pendant la guerre de Hollande, on a très très peur que les marins protestants, il faut bien imaginer que les marins protestants représentent l'essentiel des marins entre Loire et Gironde en France. L'ampleur de la présence de la confession protestante dans les milieux maritimes entre Loire et Gironde est importante, y compris en Bas-Poitou. Bon. Et le résultat, c'est qu'il tombe sous le coup de la trahison. Il tombe sous le coup de la trahison. Quand il est libéré en 1698, le roi d'Angleterre demande la libération des Anglais qui ont été arrêtés. Et là, il a vraiment joué d'un droit de grâce parce qu'il n'était toujours pas anglais. En fait, il n'est anglais que quand il revient à New York et qu'il devient anglican. Et ça, c'est vraisemblablement à partir de 1698-1700. On n'a pas la date exacte. Mais il lie sa naturalisation anglaise, comme il dit, au fait de ne plus être dissident, sous-entendu huguenot. Parce qu'on se méfie à huguenot, il y a un puritain qui sommeille derrière. On se méfie chez les Anglais. Et il devient... il identifie très bien la nationalité anglaise à l'appartenance à l'anglicanisme. C'est extrêmement intéressant. Alors, c'était beaucoup plus facile dans les colonies anglaises. Il n'y avait pas d'évêques pour surveiller, etc. Ça, je l'ai dit. Et c'était le fait que les quelques 3 à 4 000 huguenots n'ont pas tous été naturalisés dans les colonies anglaises d'Amérique. La plupart étaient uniquement dénisés sous la protection du roi d'Angleterre. Mais en fait, dans les colonies, on ne faisait aucune différence entre les deux. L'administration britannique ne faisait aucune différence entre les deux statuts. Mais c'est très tardivement dans sa vie qu'il décide de devenir anglais. C'est quand il est sorti des galères et tout simplement il revient de France en disant « Bon, bah, c'est terminé, il faut qu'on s'établisse, nous ne reviendrons pas en France ».
Sur le réseau FM Plus Antenne de Montpellier, l'historien Didier Poton vient de faire revivre pour nous Élie Nau, marin rochelais protestant qui, après la révocation de l'édit de Nantes, va s'installer de l'autre côté de l'Atlantique et, rattrapé par la France, galère, arrive à s'en sortir et finit en Amérique comme fondateur d'une maison d'accueil d'enfants d'esclaves noirs. Didier Poton était l'invité de la librairie Jean Calvin d'Alès dans un de ses cycles de conférences. Au revoir et à bientôt sur FM+, pour un prochain parcours.